L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion, vous le savez. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h. L'eau qui tombe beaucoup en ce moment, on en a un peu marre de l'eau. Oui, mais vous verrez, quand ça se tarira et qu'on évoquera de nouveau la sécheresse, on réalisera de nouveau que l'eau est précieuse, qu'en avoir à volonté au robinet, qui plus est potable, est un luxe inouï. Et c'est une eau de bonne qualité, quoi qu'on en dise. Alors parfois, il y a des accidents, mais contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, on ne risque rien à boire l'eau de notre réseau. Alors c'est notamment parce que cette eau est très surveillée, et elle est très tôt surveillée par des gens qualifiés, comme nos invités. Elles et ils viennent de l'EPAGA, l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne et de l'Yerre. Alors vous le savez, c'est un établissement qui a plein de missions, notamment la gestion des niveaux d'eau, que ce soit en période de sécheresse justement ou d'inondation de crues, mais aussi donc sur la qualité de l'eau, car c'est essentiellement de ce bassin versant que vient l'eau donc, que nous buvons en centre Finistère et même au-delà. Alors avec nous, il y a la vice-présidente de l'EPAGA, Laura Jambou, et François Le Guern, qui est technicien suivi qualité des eaux et profil de vulnérabilité conchylicole. Bonjour.
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 Alors ce suivi de qualité de l'eau, on va bien distinguer, parce que les contrôles sur la qualité de l'eau, il y a plusieurs acteurs qui font des contrôles. Vous, l'EPAGA, vous intervenez en amont, comme on dit, c'est ça?
Oui, en fait, il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui sont responsables de la qualité de l'eau. Il y a les producteurs d'eau pour l'eau du robinet. Il y a le département aussi qui suit plusieurs cours d'eau sur l'État, en fait. Et l'EPAGA fait ce suivi depuis octobre 2014. C'est pour avoir, en fait, garantir la bonne qualité du milieu aquatique. Donc, on acquiert des connaissances sur la qualité de l'eau au niveau de l'ensemble du bassin versant de l'Aulne. Et on a pour ça des stations de prélèvement sur les principaux affluents de l'Aulne, ainsi que sur le point nodal qui est situé sur la station de Pompol, donc la commune de Châteauneuf-du-Fou.
Pourquoi alors, c'est un point nodal?
Alors, qu'est-ce qu'un point nodal?
Ouais, c'est quoi?
Donc, c'est le point de référence du bassin versant de l'Aulne. Il permet d'apporter une certaine représentation des tendances en termes de qualité et de quantité d'eau qui prévalent sur le bassin.
Et quand je disais qu'on buvait l'eau de l'Aulne, c'est bien ça, François? Enfin, pas directement, mais en fait, les prélèvements, même quand c'est des captages souterrains, ça vient quand même de l'Aulne, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc... On va dire que l'eau qu'on a dans l'Aulne est prélevée donc, par les producteurs d'eau et est traitée, bien sûr, avant d'être envoyée donc, dans l'eau qu'on va recevoir dans nos robinets.
Donc vous n'êtes pas au robinet, l'EPAGA, on a bien compris. Vous ne pouvez pas être partout non plus. Il y a combien de captages sur l'ensemble du bassin versant? Enfin, si vous avez une idée, peut-être, non, c'est pour qu'on sache...
J'avoue que je n'ai pas cette réponse-là.
D'accord, bah non, mais vous avez le droit. Et les principaux affluents, vous disiez où il y a des captages, c'était quoi?
Alors, les principaux affluents de l'Aulne, donc on a l'Yerre, qui est une des plus grosses rivières affluentes de l'Aulne. On a également l'Élèze, qui est une grande rivière aussi.
Des monts d'Arrée.
Ouais. Bien des monts d'Arrée, effectivement. Le Sterguanèse également. Ainsi que la Dauphine. Voilà, à peu près les principaux affluents du bassin versant de l'Aulne.
Et une station de captage, alors ça se présente comment?
En fait, c'est une usine qui prélève plutôt pas dans les cours d'eau, mais plutôt sur les masses souterraines. Et, oui. Et donc ça permet d'avoir aussi une production autre qu'au niveau de l'Aulne canalisée. Les principaux producteurs d'eau prennent leur prélèvement au niveau de l'Aulne canalisée.
Oui, mais pas tout.
Voilà. Il y a différents points de production d'eau. Alors, ils sont un peu tous différents avec différents processus. Mais voilà, principalement, c'est le captage de l'eau potable se fait au niveau de l'Aulne canalisée. Après, certains territoires arrivent à avoir une autonomie, mais pas complète, au niveau de l'eau potable avec leur propre captage.
Les prélèvements que l'EPAGA effectue, François Gestin, comment ça se passe? Le Guern, je vous appelle François Gestin, mais c'est Le Guern.
Donc en fait, quand on va faire des prélèvements, c'est important qu'on respecte un protocole strict et éprouvé en fait, pour pouvoir reproduire ces analyses et pouvoir suivre des tendances pour ces résultats-là. Donc en fait, quand on va sur le terrain, on utilise des flacons qui sont fournis par le laboratoire d'analyse et on utilise des gants à usage unique pour éviter de contaminer les flacons.
Et c'est grand, juste, c'est grand comment un flacon, juste pour avoir l'image?
Alors, on utilise plusieurs flacons, enfin plusieurs tailles de flacons suivant les analyses qu'on veut réaliser. On a des flacons qui font 100 ml jusqu'à 1 litre.
D'accord. Donc vous, c'est vous qui y allez.
Voilà, moi c'est, je suis en charge justement de faire les prélèvements pour les pagas. Donc quand je vais sur le terrain, du coup, quand j'arrive au bord de l'eau, le prélèvement, je le fais toujours dans le courant pour éviter de prélever une eau stagnante. Je plonge le flacon entièrement sous l'eau avec l'ouverture du flacon dans le sens du courant pour éviter notamment qu'il y ait des feuilles ou des petits bouts de bois à rentrer dans le flacon. Ensuite, enfin, avant de faire le prélèvement, c'est important de le rincer 3 fois avec l'eau de la rivière. Pour être sûr que le flacon est
ouais, qu'il n'a pas été contaminé par une autre eau. Quoi.
Voilà. Ouais. Normalement, c'est des flacons, enfin c'est toujours des flacons neufs, bah, mais, oui. Mais
on ne sait pas comment ils ont été traités aussi, voilà. Ça se trouve. Ouais.
Et, par exemple, quand l'accès à la rivière peut être difficile, on peut utiliser aussi une perche avec un bécher, donc on va rincer 3 fois. On peut prélever aussi d'un pont, en utilisant un seau, une corde.
C'est dangereux à moitié. Il ne s'agit pas de tomber dans l'eau, en tout cas.
C'est vrai qu'il faut faire attention quand on va faire ces prélèvements-là, ouais, bien sûr.
Oui, mais parfois, vous faites des prélèvements vraiment en bord de rivière, dans des endroits... Enfin, quand c'est en bord de canal, ça va encore, mais est-ce que ça peut être à des endroits un peu plus scabreux, non?
On fait attention quand on va dans l'eau, mais... On va dire qu'on est équipé de toute façon de matériel, on a un gilet de sauvetage en cas de besoin, et on n'est jamais tout seul non plus. Donc on est toujours minimum 2 pour, lorsqu'on va faire les prélèvements.
Et l'opération, ça prend combien de temps
En ce moment, par rapport aux tournées que je fais, je mets la journée, parce que je parcours un peu tout le bassin versant pour aller faire mes prélèvements.
Donc sur la journée, combien de stations? Combien d'arrêts?
Actuellement, je fais 8 stations, mais sur 3 rivières différentes. Donc, je fais un peu le tour du bassin versant.
Et ça, c'est tous les combien de temps? Enfin, la fréquence de ces prélèvements
Actuellement, je fais des prélèvements tous les 2 mois, à peu près. Donc, il n'y a pas de date définie précisément à l'avance, mais c'est environ tous les 2 mois.
Et les 8 points, c'est toujours les mêmes, enfin, sur lesquels vous allez revenir alors, dans 2 mois, par exemple?
Pour cette année, oui. Mais ensuite, ça dépend des années. Suivant les années, on fait des suivis sur certains cours d'eau pour essayer d'identifier certaines pollutions, par exemple. Ça change d'année en année.
Ouais, vous avez des critères pour déterminer quels seront les prélèvements, les points de prélèvement, c'est ça?
Ouais.
Et ça, c'est vous-même qui... François qui déterminait, ou c'est en équipe des PAGA que ça se fait?
Non, c'est en équipe avec les PAGA en fonction des besoins de chacun aussi et des sorties terrain que chacun peut faire.
Et qu'est-ce que vous suivez exactement?
Donc en fait, on analyse plusieurs groupes de paramètres, avec tout d'abord en fait les paramètres physico-chimiques, avec par exemple les nitrates ou le phosphore, qui peut être par exemple contenu dans la terre et être témoin d'une érosion des sols. Qui peut favoriser l'apparition d'algues dans les cours d'eau. On analyse aussi l'ammonium, qui est une substance toxique pour les poissons au-delà d'un milligramme par litre, et qui peut provenir à la fois d'effluents industriels, domestiques ou agricoles. On analyse également l'oxygène dans les cours d'eau.
Ouais, pour voir si c'est pas eutrophisé, enfin, voilà. Si c'est bien aéré, c'est ça?
On peut dire ça. Ensuite, on analyse aussi les paramètres bactériologiques avec le nombre d'Escherichia coli, qui est donc une bactérie fécale, qu'on peut également ensuite faire des analyses qu'on appelle discriminantes, qui permettent donc d'identifier de quel animal provient ces bactéries. On étudie aussi les matières en suspension dans le cours d'eau, qui sont également souvent témoins d'érosion des sols, comme pour le phosphore.
Ah oui, parce que le phosphore, c'est un témoin. Ouais, j'ai pas rebondi sur ce que vous disiez. C'est un témoin d'érosion des sols.
C'est ça. Comme c'est contenu généralement dans la terre.
Donc s'il y en a dans l'eau, c'est qu'il y a eu un ruissellement, que le sol a ruisselé dans la rivière.
Lors de fortes pluies, on constate généralement que les cours d'eau deviennent teintés. Et c'est lors de ces événements-là qu'on retrouve du coup du phosphore et des matières en suspension dans les cours d'eau.
D'accord.
On peut également analyser des pesticides ou des résidus médicamenteux et dans de plus rares cas, des métaux lourds dans les cours d'eau.
Mais pas systématiquement.
Non, c'est quand même plus rare.
Oui. Et qu'est-ce qui détermine que vous allez, par exemple, étudier les médicaments dans l'eau ?
Ça peut être... sur la Dauphine, par exemple, ça a été réalisé il y a quelques années parce qu'on a des piscicultures qui sont sur la rivière. Donc, on voulait tester, voir s'il y avait un impact de ces piscicultures-là. Donc, voilà le genre d'analyse qu'on peut réaliser dans ces cas-là.
Ça fait donc combien de temps là, que c'est suivi ? Ça fait des années, je suppose ?
Donc c'est depuis 2014 que les PAGA réalisent des suivis sur le bassin versant.
Ah oui. Et donc, quelles ont été les évolutions depuis 2014 ? On va dire que ça fait 10 ans, hein, ça y est.
C'est ça. Donc à les PAGA, il faut savoir qu'on utilise un référentiel qui est le référentiel SEC-O. En fait, qui permet de classer les résultats d'analyse d'un état très bon à mauvais, en passant notamment par un état du coup bon, moyen et médiocre. Et donc, lors de ces 10 dernières années, on a donc pour les analyses physico-chimiques, elles ont montré une qualité variant de très bonne à moyenne pour l'ensemble des masses d'eau qui ont été suivies, excepté pour les nitrates, où là, on a une qualité un peu moins bonne qui varie entre bonne à médiocre. La qualité bactériologique, elle est très variable également, avec une qualité qui va de moyenne pardon, à mauvaise, notamment pour les masses d'eau du Fou et de la Dauphine. Mais pour l'ensemble de ces paramètres-là, aucune tendance en fait, significative n'a pu être observée durant ces dernières années.
Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va, ça vient
C'est ça. C'est suivant les années. Des fois, on a des bonnes années où on a une qualité qui reste assez correcte et certaines années où cette qualité diminue.
Et ça va dépendre peut-être de quoi ? De la pluviométrie
Souvent, un des facteurs importants, c'est de la pluviométrie. Donc, lors de fortes pluies, généralement, le ruissellement va entraîner un lessivage des sols. Et amener avec elle du coup toutes sortes de polluants dans les rivières. Donc suivant certaines années, on a différents résultats.
Mais il n'y a pas une tendance de fond sur les 10 ans d'amélioration. Oui, Laura, Jean-Bou.
Oui, en fait, je voulais faire une petite précision parce qu'on fait des analyses pour avoir les qualités, mais derrière, on met des actions en place. Quand on rencontre un petit peu comme le phosphore, on a un programme Bresse-Bocage, en fait, pour mettre des haies en travers de pente pour éviter tous ces ruissellements qui vont finir dans les masses d'eau. Donc, en fonction des analyses que l'on a, on étudie les actions préventives ou curatives qu'on peut mettre en place pour continuer à préserver notre bon état du milieu aquatique.
Et mais alors justement, Bresse-Bocage, ça fait quand même un certain temps qu'il est mis en place. Est-ce que vous constatez des résultats ou c'est trop tôt ou...
disons que des prélèvements comme ça récents qu'on a pu faire sur des cours d'eau, ça n'a pas été fait... pour constater vraiment l'effet du programme Bresse-Bocage.
C'est encore trop tôt, peut-être.
Ouais, peut-être. Et aussi, je pense que c'est un programme qui est assez difficile à constater l'évolution avant qu'il y ait vraiment un nombre important de talus de créer.
Ouais, c'est ça.
Et je pense que ça, c'est un des effets qui seront visibles que dans quelques années.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est trop tôt.
Je pense.
Oui, il faut que ça se poursuive. Oui, et d'autres tendances sur d'autres études que vous avez faites, d'autres prélèvements que vous avez faits ?
Oui, par exemple, je sais que sur l'aulne canalisée et le Garvan, c'est deux masses d'eau sur lesquelles on a pu voir par contre là, qu'il y avait une diminution des nitrates au cours de ces dernières années. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais on va dire que l'ensemble des concentrations, sur la quasi-totalité des paramètres, est considéré comme plutôt stable lors de ces dernières années.
Et Laura, à part Bresse-Bocage, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme action faisable pour les PAGA sur ce...
On a plein d'actions pour les PAGA.
À part le programme Bresse-Bocage, On peut également accompagner les agriculteurs dans la pose d'abreuvoir, par exemple, pour éviter que les vaches aillent directement boire au cours d'eau.
Parce que qu'est-ce qui se passe si elles...
Évidemment, quand les vaches vont boire au cours d'eau, il y a un transfert du coup, qui se fait beaucoup plus facilement. Si les vaches défèquent dans le cours d'eau, par exemple, on a un transfert de bactéries important à ce moment-là.
Les Escherichia coli, notamment, enfin certaines,
c'est ça.
En tout cas.
Donc on peut accompagner les agriculteurs dans la mise en place de, à la fois d'abreuvoir, et également dans la mise en place de passages à gué qui permettent du coup au bétail ou aux engins agricoles aussi de traverser la rivière sans détruire les berges et en mettant en place des ponts ou des buses pour le passage des bêtes et des engins.
Et j'ai encore une question qui surgit. Qu'est-ce qui peut influer sur la qualité de l'eau? Bon, il y a les activités, évidemment, humaines autour du bassin versant. Et est-ce qu'il y a, par exemple, la faune et la flore? Je pensais notamment à la destruction des berges par les ragondins. Enfin, est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité de l'eau?
Au niveau, oui, parce qu'en fait, vous avez les chiracolis, c'est aussi sur les animaux sauvages. Mmh. Après, les différents acteurs, on est tous acteurs en fait, de la qualité de l'eau. Donc, il y a le tourisme, il va y avoir l'agriculture, les collectivités, les assainissements. Enfin, on est tous acteurs en fait, de la qualité de l'eau. Et dès qu'on soulève... une analyse qui est un petit peu moyenne, on essaye de mettre toutes ces actions en place derrière en faisant des programmes pour les réhabilitations entre autres des assainissements non collectifs, en essayant aussi que... Alors les animaux sauvages,
on n'y peut rien. Si, un peu, mais bon, pas grand-chose.
Bah, c'est assez compliqué, ça ne se maîtrise pas, mais après c'est vrai qu'on peut réglementer ou donner des solutions, essayer de trouver des solutions pour que toutes ces pollutions n'arrivent pas au ruisseau et que ça s'arrête avant. Donc il y a différentes actions qui sont étudiées, faites au coup par coup en fonction des problématiques que l'on rencontre.
Oui, François? Non, c'est bon?
C'est bon pour moi.
Et par exemple, non mais je pensais à une question. Est-ce que le fait de canaliser une rivière, est-ce que ça influe sur ses qualités ou pas? Enfin bon, la canalisation de l'eau, elle remonte à longtemps, mais est-ce que ça peut changer sa qualité?
C'est vrai qu'une rivière où on a un courant plus important, on aura automatiquement une oxygénation aussi plus importante de l'eau, une dilution plus rapide aussi des polluants notamment. Donc ouais, bien sûr.
Est-ce que les métaux lourds, vous avez parlé que de temps en temps les métaux lourds étaient analysés, mais bon, alors on n'a plus d'industrie depuis un certain temps en amont, hein. C'est quoi, c'est un contrôle?
C'est des analyses qui peuvent être réalisées comme ça a pu être fait aussi sur la Dauphine, sur l'aval de la Dauphine, en aval de la Poudrerie justement, où ces analyses là ont pu être réalisées. C'est vraiment dans de rares cas qu'on...
Pour vérifier, voilà. Oui. Quand il y a un accident, cette fois, une pollution accidentelle, quelle qu'elle soit, quel est le rôle de l'EPAGA?
Alors, lorsque un agent de l'EPAGA est témoin de cette pollution, donc la première chose à faire, c'est il contacte les pompiers, la gendarmerie, enfin tous les acteurs qui peuvent agir sur cette pollution, les maires ou les mairies concernées aux alentours de la pollution, et aussi les gestionnaires d'eau potable. C'est là où c'est très important aussi de les prévenir. Et après, et naturellement, la hiérarchie de l'EPAGA pour que les actions et le suivi et les actions curatives puissent être mises en place.
Donc est-ce que c'est l'EPAGA qui a le rôle d'alerte, ou c'est la préfecture?
C'est un devoir de tout le monde, en fait. Toute personne qui constate une pollution doit quand même la signaler, parce qu'il y a des conséquences derrière. Notamment au niveau de l'eau potable, si c'est sur l'eau de Calaisée, par exemple, on consomme quand même l'eau qu'il y a derrière. Donc dès qu'on est témoin d'une pollution ou d'un incident, il faut impérativement prévenir les services de l'État et aussi l'EPAGA.
Nous, on peut appeler l'EPAGA, par exemple, quand on constate quelque chose.
D'accord. Vous pouvez l'appeler, je vais vous donner le numéro de téléphone.
Non, on le mettra sur le site internet, c'est plus simple.
Sur le site internet, d'accord. Ouais. Après, en fait, à la demande soit des gendarmes ou des autres services de l'État, donc vous avez les pompiers, la DDTM, Direction départementale des territoires de la mer, vous avez la DREAL aussi, qui est l'agence de l'environnement. Et vous pouvez aussi avoir la DDPP, la protection de la population.
Tous ces données.
Toutes ces instances des services de l'État peuvent demander aussi, du coup, à l'EPAGA de faire des analyses pour identifier la pollution et les conséquences qu'il peut y avoir suite à la pollution qui est arrivée ou pas dans nos cours d'eau.
Et peut y avoir un suivi pendant un certain temps. Enfin, je sais pas, la fuite du méthaniseur de Châtelain, par exemple, vous avez suivi pendant combien de temps après
Alors, l'EPAGA fait un constat, il fait les analyses. Après, de temps en temps, il y a un suivi de prélèvement, mais c'est principalement après le producteur d'eau qui surveille cette pollution, parce que son point de pompage, il est dans l'Aulne, et donc il est, enfin voilà, c'est lui qui va vérifier la qualité de l'eau qui va sortir au niveau des robinets.
Mmh. Le suivi spécifique qui est fait donc en zone littorale, François, c'est où, enfin quels sont les points qui sont prélevés déjà? Qu'est-ce qu'on appelle zone littorale dans notre cas?
Alors, dans notre cas, ça va être sur tous les petits cours d'eau côtiers qu'on peut avoir, que ce soit sur le sud de la rade de Brest, donc sur le nord de la presqu'île de Crozon, sur les affluents aussi de l'estuaire de l'Aulne, donc en aval de Châtelain, en fait. C'est également sur les affluents de la partie estuarienne de la Dauphine et sur la rivière du Fou aussi, enfin, et l'estuaire du Fou.
Donc, pourquoi est-ce que vous faites un suivi particulier, enfin, quelle est la différence entre le prélèvement qui est fait en zone littorale et le prélèvement qui est fait en amont?
Ben, les prélèvements en zone littorale, ça va être spécifiquement pour identifier les problèmes issus de la bactériologie, en fait. On va vraiment essayer de cibler... Dans ces
polluants-là. Oui. Ah ouais.
Donc, pour permettre aussi de gérer la problématique bactériologique qui peut avoir un impact sur les producteurs de coquillages, en rade de Brest notamment.
Oui, parce que le problème des pollutions de côtières, c'est surtout les bactéries dans les coquillages. Enfin, les coquillages sont surtout touchés par des bactéries, c'est ça le problème?
C'est ça. Mmh. Et si les coquillages sont touchés par ces bactéries-là, ça peut avoir un impact financier assez important pour les producteurs en rade de Brest, puisqu'ils sont obligés dans ces cas-là, enfin ils ne peuvent pas vendre leur production directement, ils sont obligés de les garder un certain temps pour mettre ces coquillages-là dans des bassins afin de qu'elles filtrent une eau propre avant de pouvoir les mettre sur le marché.
Et les bactéries, c'est toujours Escherichia coli ou il y en a d'autres qui sont spécifiquement étudiées?
Alors, nous, on étudie les E. coli parce que...
ça va plus vite.
Parce que, en fait, ces bactéries-là, lorsqu'elles sont présentes, c'est qu'elles témoignent d'une pollution bactériologique et elles sont accompagnées de d'autres bactéries.
Si elles sont là, il y en a d'autres.
Si elles sont
là,
c'est qu'il y en a d'autres.
Ok.
Donc, c'est pour ça qu'on l'étudie.
Mm-hmm. Et est-ce que ce prélèvement, l'acte du prélèvement se fait différemment et c'est toujours les histoires de flacons dans le courant, là, c'est peut-être un peu différent
Non, on prélève exactement de la même façon que pour un autre prélèvement classique.
Et vous ne faites pas des prélèvements directement dans les coquillages ou dans la vase, enfin, je ne sais pas
Alors, si, on en fait aussi. Donc, sur la Ria du Fou, on a également des prélèvements de palourdes. Qu'on envoie au laboratoire, où là, la chair des palourdes est analysée et le nombre de bactéries dans les palourdes nous est transmis ensuite.
Ça, vous le faites tous les combien à peu près, ce prélèvement-là?
On le fait tous les 2-3 mois. C'est assez variable. Mais on fait aussi... Alors, c'est pas nous qui allons faire ces prélèvements-là directement, mais il y a des producteurs d'huîtres au niveau du sillon des Anglais, au niveau de la rade de Brest, qui envoient leurs huîtres, un échantillon d'huîtres au laboratoire. Et le laboratoire nous transmet ensuite les résultats également.
Donc, si on voit des gens en bottes au bord de la rivière du Fou, c'est les Pagas. Enfin, vraisemblablement.
C'est possible.
Laura, un mot de conclusion là-dessus?
Bah, si on veut continuer sur la zone littorale, on a fait des profils de vulnérabilité conchylicole qui regroupent après toutes les analyses et les différentes actions qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer un peu tout cet état, parce que tout ce qui ruisselle au niveau du littoral finit aussi dans la rade de Brest. Donc, du coup, il y a aussi tout un programme Terre et Rade qui en prend en compte toutes les actions pour essayer de préserver un petit peu la rade. Donc c'est vrai que nous, au niveau de l'EPAGA, on essaye d'avoir une vigilance accrue sur nos milieux aquatiques, parce que c'est une ressource importante, l'eau, et il faut que la préserver. Et en fait, du coup, c'est quand même l'affaire de tous. Donc, voilà.
Et pas seulement de l'EPAGA.
Et pas seulement de l'EPAGA.
Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'être venu dans cette émission et on recevra sans doute l'EPAGA prochainement sur un autre sujet lié à l'eau. Au revoir.
Au revoir.